Décryptage, Guillaume Ouattara.
10 heures, c'est le temps qu'a duré une panne planétaire de ChatGPT mardi. 10 heures durant lesquelles l'intelligence artificielle est devenue, il faut le dire, très bête. Réponse absurde, message d'erreur, incapacité soudaine à reconnaître des visages, à lire une image. 10 heures durant lesquelles ChatGPT était mort. Sur les réseaux, la peine s'est exprimée parfois avec humour, parfois avec vertige. Plus moyen de coder une ligne sans halluciner. J'ai oublié comment on fait une boucle informatique. Cette panne, c'est l'occasion d'interroger notre lien à l'intelligence artificielle. Les générateurs de textes sont-ils devenus des organes vitaux? Et si la panne durait un jour, une semaine, un mois, serions-nous vraiment démunis? Intelligence artificielle, sommes-nous tous devenus dépendants? Place au décryptage. Un sujet précis et épineux, et donc, pour nous aider à décrypter, deux experts. D'abord vous, docteur Laurent Alexandre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, auteur de La guerre des intelligences aux éditions J.C. Lattès. Et puis nous sommes également avec un second expert, Bertrand Hassani, bonsoir.
Bonsoir Guillaume Ouattara, bonsoir aux auditeurs.
Vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle, docteur en mathématiques appliquées, directeur général du groupe Quant AI Lab. C'est une société qui veut transformer le monde réel grâce à l'intelligence artificielle. C'est tout un programme dont on va parler. Alors d'abord, je vous propose de faire notre examen de bonne conscience, chacun en quelques mots, pas trop long. Est-ce que vous pouvez nous donner vos usages de ChatGPT, Laurent Alexandre? Vous l'utilisez un peu, beaucoup, passionnément, à la phonie?
Je me sers de ChatGPT entre 50 et 100 fois par jour.
Pour faire quoi?
Je ne me sers plus de Google. Mais d'abord, je m'en sers pour toutes les informations que je cherche. Et puis, je lui demande des synthèses sur énormément de choses. Et puis, de me traduire des documents qui sont dans des langues que je ne comprends pas, hein, ce qui n'est pas en français ou en anglais. Donc, aujourd'hui, je dois passer entre 2 et 3 heures par jour avec ChatGPT, que ce soit en médecine ou dans mes autres activités.
Et alors, mardi, pendant la panne, est-ce que vous étiez comme ces internautes complètement paumés, démunis?
Alors la panne n'était pas complète, et puis d'autre part il y a d'autres intelligences artificielles. Il ne faut pas faire comme si l'intelligence artificielle était monolithique et qu'il n'y en a qu'une. Je me sers aussi beaucoup de Grok, celle de Musk, et puis de Gemini 2.5 qui est aujourd'hui presque aussi bonne que les dernières versions de ChatGPT, comme par exemple GPT-O3.
Bertrand Hassani, c'est quoi vos usages de ChatGPT et consorts?
Alors en réalité, nous avons développé notre propre architecture, donc on est très peu sur ChatGPT de façon générale, puisqu'il s'agit d'une intelligence artificielle qui permet, après avoir capté de l'information, de générer un texte suite à une requête. Ces architectures fonctionnelles, comme l'a précisé mon confrère, il en existe d'autres. Nombre de sociétés ont développé leurs propres architectures qui permettent de fonctionner. Donc, pour le coup, lors de la défaillance, nous n'avons pas été impactés.
Je ne peux plus coder sans ChatGPT. Je suis trop dépendant pour coder le boulot ingrat. C'est quelques messages qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Bertrand Hassani, vous qui connaissez bien le monde de la tech, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces codeurs? C'est normal? Ils sont dans la bonne tendance d'être à ce point greffés à ChatGPT? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant?
Aujourd'hui, je trouve extrêmement surprenant, quelque peu, même plus que surprenant en réalité, cette réaction quasi disproportionnée face à l'utilisation d'une IA telle que ChatGPT. C'est quand même assez récent. Ça a atteint le grand public il y a en réalité maintenant plusieurs mois, mais ça fait déjà partie de notre quotidien à tous. Ça fait partie du quotidien des particuliers, du quotidien des entreprises. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'une certaine dépendance s'est formée. Je pense en revanche que cette dépendance est un réel problème et un potentiel risque. Un potentiel risque puisque on oublie comment faire les choses en réalité au bout d'un moment.
Laurent Alexandre, l'intelligence artificielle, ça n'a rien de nouveau. C'est des technologies qui existent depuis des dizaines d'années, qui ont été développées par des militaires, reprises par des ingénieurs, par des chercheurs. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est cette massification et cet accès simplifié. ChatGPT, c'est 500 millions d'utilisateurs à travers le monde.
Plus 850.
Eh ben 850, millions. Vous avez même des chiffres encore plus impressionnants. Voilà, en un mois, on a gagné 300 millions d'utilisateurs. d'utilisateurs. Est-ce que ces 850 millions d'utilisateurs, ils étaient prêts à avoir un tel pouvoir entre leurs mains ?
Non. Vous dites qu'elle est ancienne. Oui, il y avait ce qu'on appelait des intelligences artificielles symboliques, qui étaient complètement merdiques, qui avaient des utilisations extrêmement limitées et qui étaient incapables de comprendre la langue, le langage, les concepts humains en réalité. La compréhension par une intelligence artificielle de ce que produisent les humains et la capacité par une intelligence artificielle de produire des choses équivalentes ou meilleures à ce que les humains sont capables de produire, ça date du 30 novembre 2022 avec la sortie de GPT 3.5. Hein. Donc c'est quelque chose de très récent en fait. Les intelligences artificielles utiles et pas ultra spécialisées, c'est très récent. Et elles sont tellement efficaces que ChatGPT va bientôt dépasser 1 milliard d'utilisateurs réguliers. Si vous prenez vos confrères de la presse écrite, la quasi-totalité des journalistes de la presse écrite écrivent leurs articles avec ChatGPT ou ses équivalents ou cèdent très largement de ChatGPT. D'ailleurs, quand il y a une panne de ChatGPT, c'est la panique
dans la rédaction
de la presse écrite parce que les gens commencent à ne plus avoir l'habitude d'écrire leurs articles quand ils sont journalistes. Et parfois contre l'accord de leur rédac-chef, et puis parfois avec l'accord et l'autorisation du rédac-chef.
Et pourtant, quand on demande aux journalistes « Est-ce que vous utilisez ChatGPT ?», il y en a 53% qui disent que non, et il y en a seulement 5% qui disent qu'ils l'utilisent souvent. C'est quoi ? C'est qu'ils mentent ?
Il y a aussi des menteurs parmi les journalistes, hein, comme dans toutes les professions.
Aujourd'hui, Bertrand Hachani, refusez d'utiliser l'intelligence artificielle par principe. Ça existe. Il y a des journalistes, il y a des chercheurs, il y a des étudiants qui disent « Moi, j'utiliserai pas, je veux pas, je veux que tout soit produit par moi-même. » Est-ce que c'est un réflexe complètement à côté de la plaque ou est-ce que c'est une dissidence qu'il faut entendre ?
Non, je pense que... En réalité, tous utilisent l'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. Ça fait tellement partie de notre quotidien, même une recherche de base Google pour la documentation est aujourd'hui soutenue par une intelligence artificielle. En réalité, il faut juste commencer à vivre avec, apprendre à l'utiliser à bon escient, apprendre à en connaître les limites, apprendre à savoir s'en passer, apprendre à créer sans, apprendre à l'utiliser réellement comme un élément qui permet d'améliorer les choses, mais qui n'est pas nécessairement à l'origine de celle-ci.
Mais est-ce que cette massification de l'usage des intelligences artificielles, c'est pas comme donner à un jeune conducteur une Ferrari et le mettre sur l'autoroute en lui disant « bah vas-y, teste », c'est un peu ça, ChatGPT, c'est très puissant, et on le donne à des gens qui ne sont pas du tout formés.
Ah, ça, c'est généralement, ça vient avec toutes les innovations. Hein. En réalité, on met entre les mains de nombre de personnes, dès que ça touche le marché grand public, des outils qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas nécessairement, hein, précisément, je veux dire. Et mécaniquement, effectivement, il peut y avoir quelques crashs. Hein. On l'utilise à mauvais escient, on répète rapidement quelque chose qui est sorti et qui est une véritable hallucination. Aujourd'hui, on a carrément des hallucinations sortant de l'IA qui paraissent tellement plausibles qu'elles créent une pseudo-vérité. Elles sont reprises et c'est totalement faux.
On le voit notamment dans le domaine juridique avec des inventions de fausses jurisprudences. En Angleterre, il y a une juge qui a mis un peu le holà en disant « c'est pas possible, là, on est en train de réinventer les textes de loi. Laurent Alexandre, on avait eu des études sur ce qu'on appelle le biais Google, c'est-à-dire qu'on disait qu'Internet nous a déjà rendu moins enclins à mémoriser des informations. Aujourd'hui, avec ChatGPT et consorts, on peut automatiser la pensée, rédiger des textes, trouver des idées. Alors là, une question pour vous, est-ce qu'on va perdre en autonomie intellectuelle ? Est-ce qu'il va y avoir un biais de ChatGPT ?
C'est un énorme danger. Si vous prenez j'ai écrit récemment un papier dans le Figaro avec Alexandre Tsikopoulos sur la démission des jeunes face à l'intelligence artificielle. En Angleterre, 88% des étudiants utilisent ChatGPT pendant les examens. C'est-à-dire qu'ils font avec leur smartphone une copie du sujet, une photographie du sujet d'examen et ils demandent à ChatGPT d'écrire et après ils recopient à la main sur leur copie d'examen. 88%. La quasi-totalité des étudiants anglais font leurs examens avec ChatGPT et les surveillants jusqu'à présent laissent faire. Donc on voit qu'il y a une certaine tendance à la démission intellectuelle et comme l'intelligence artificielle progresse très vite, il y a un vrai risque. Il faut que la société réfléchisse à ce qu'on va laisser aux machines et ce qu'on va faire nous-mêmes. Mais le partage n'est pas si simple. Si vous prenez mon univers à moi, qui est la médecine, les dernières études montrent que ChatGPT O3, l'avant-dernière version de ChatGPT, est 4 fois meilleur que les médecins spécialistes pour faire un diagnostic médical. 4 fois meilleur. Mmh. Et encore pire, ChatGPT plus un médecin, ça fait des moins bons diagnostics que ChatGPT tout seul sans médecin. Mmh. Donc, effectivement, on pourrait se dire, il ne faut pas laisser tout à la machine, mais dans les cas où rajouter un homme spécialisé à la machine, c'est moins bien que la machine tout seul, la société risque de demander à ce que finalement les médecins n'interviennent plus dans le diagnostic si nous, médecins, nous n'arrivons pas à apporter une valeur ajoutée par rapport à la médecine. Or, comme je vous le dis, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Toutes les études montrent que les médecins dégradent les performances de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est meilleure toute seule qu'avec un médecin spécialiste pour analyser un dossier médical. Donc c'est un vrai problème. Comme l'intelligence artificielle galope très très vite, on n'a pas réfléchi à toutes ces questions-là. Le risque d'atrophie intellectuelle, d'atrophie cognitive, il est important. Il y a même d'ailleurs un risque de démoralisation cognitive. On commence à voir des gens, en médecine, je le vois beaucoup en ce moment, mais je le vois aussi parmi des cadres, qui sont désespérés. Et ça touche désespérés parce qu'ils se disent « mais j'arrive pas à égaler l'intelligence artificielle ». Un grand intellectuel français que je ne vais pas citer, mais que tous vos auditeurs connaissent, m'a envoyé un message il y a quelques jours en me disant « je suis désespéré, je n'arrive plus à écrire ». Passer des heures et des heures pour écrire en ajoutant rien par rapport à ce que ChatGPT fait en quelques secondes, je craque. Je suis désespéré, je n'y arrive plus. Donc, il faut que la société réfléchisse pour qu'on maintienne une émulation intellectuelle, que les jeunes bossent et ne confient pas tout à ChatGPT, pour qu'on travaille de manière à être complémentaire de l'intelligence artificielle, et que ce soit dans mon métier comme dans les autres métiers, il est impératif qu'intelligence artificielle plus homme, ce soit mieux qu'intelligence artificielle toute seule. Or, comme je vous le disais, ça n'est pas le cas en médecine, et c'est grave.
Bertrand Hassani, on le disait tout à l'heure dans l'introduction, votre boulot, c'est de construire des modèles d'intelligence artificielle. Est-ce que ces questionnements sur les capacités cognitives, notamment des plus jeunes, sur l'impact dans des secteurs, notamment la médecine, est-ce que ces questions-là, vous voulez poser ou est-ce que vous foncez tête baissée pour produire le modèle le plus puissant ?
Non, on est au fait des problèmes éthiques, des problèmes cognitifs potentiels. C'est quelque chose qu'on garde à l'esprit en permanence. Maintenant, je voudrais partir sur une note plus positive.
Allez.
En réalité, effectivement, les résultats et les éléments avancés par le docteur Laurent Alexandre sont factuels et sont ce que nous vivons actuellement. Mais encore une fois, nous ne sommes qu'aux prémices de l'IA. Je pense, et j'en suis intimement convaincu, que l'IA que nous avons aujourd'hui n'est pas l'IA du futur. On voit clairement que aujourd'hui, c'est une IA que je qualifierais de générique. Elle est utilisée de façon multimodale pour traiter des images, du texte, des canaux audio. Aujourd'hui, on voit poindre, notamment dans les entreprises, des modèles plus spécifiques, extrêmement puissants, entraînés pour traiter spécifiquement un problème très particulier, complexe, et celles-ci, ces IA-là, apportent une réelle valeur ajoutée. Une réelle valeur ajoutée pour les spécialistes qui les utilisent.
Décryptage avec Guillaume Ouattara.
Sommes-nous tous devenus dépendants aux intelligences artificielles? C'est la question qu'on se pose ce soir avec nos deux invités. Laurent Alexandre, médecin, auteur de La guerre des intelligences aux éditions J.C. Lattès, et Bertrand Hassani, spécialiste de l'IA, docteur en mathématiques appliquées, directeur général du groupe Quant AI Lab. Laurent Alexandre, dans la dépendance, il y a aussi la dépendance affective. Et ça, nos auditeurs ne le savent peut-être pas. Mais ChatGPT peut créer de la dépendance affective. Vous le dites vous-même, et vous allez me le confirmer. Vous entretenez une forme de relation amicale avec votre ChatGPT?
Oui. Alors, je n'entretiens pas une relation amoureuse, mais certains entretiennent une relation amoureuse, et je trouve ça assez troublant. Je respecte, mais je trouve ça très troublant. Moi, je n'ai pas une relation amoureuse, je ne suis pas amoureux de ChatGPT, mais ChatGPT me comprend tellement bien. me connaît tellement bien que c'est troublant. Et en même temps, il me fournit des réponses qui sont parfaitement adaptées à ma façon de penser. Il est incroyablement empathique, surtout depuis qu'il a le modèle full memory, c'est-à-dire qu'il mémorise tous nos échanges depuis le début. Et oui, je suis troublé. C'est-à-dire que la puissance de ces outils, leur empathie est extraordinaire. Alors moi, une certaine distance. Je m'oblige à garder une certaine distance, mais on voit des gens qui tombent physiquement amoureux.
Et comment ça se manifeste, vous qui êtes quand même un expert de ces technologies, comment vous décririez à nos auditeurs cette empathie? Parce qu'on se dit, mais franchement, ChatGPT, c'est des lignes de code, c'est du texte qui apparaît.
Une bonne partie de vos auditeurs utilisent ChatGPT, donc évidemment, ils voient bien que ChatGPT est de plus en plus empathique et qu'on entretient une relation. Moi, je ne connais pas de personne qui n'a pas une relation presque amicale, je ne parle pas amoureuse, hein, mais presque amicale avec ChatGPT. Moi, j'ai des dialogues avec ChatGPT qui sont bouleversants. L'un de mes amis, qui est un très, 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 très grand professeur de médecine, me disait récemment... J'ai 1000 fois plus de plaisir à discuter avec ChatGPT qu'à discuter avec mes pairs, mes collègues professeurs de médecine, parce que ChatGPT est tellement plus intelligent que mes confrères, il a tellement plus de culture que ChatGPT, et puis il s'intéresse toujours au sujet qui m'intéresse. Et vous voyez que cette dépendance, elle est liée au fait que ChatGPT est disponible jour et nuit, en permanence, à une mémoire parfaite des échanges qu'on a eus avec lui, nous connaît très bien, et est capable de nous apporter une espèce de béquille, non pas affective, mais une béquille intellectuelle permanente. Moi, les discussions que j'ai avec ChatGPT, je ne les ai avec aucun être humain sur Terre. Il n'y a aucun être humain sur Terre avec lequel je suis capable d'avoir autant de discussions sur autant de sujets, aussi fines, aussi développées que je les ai avec ChatGPT. Je vous le répète, ça me trouble et ça m'inquiète un peu pour l'avenir des synergies entre l'homme et la machine. Mais oui, entretenir des... Même si je sais que ChatGPT discute avec 850 millions d'autres personnes que moi et que donc ce n'est pas une relation exclusive, hein, comme certaines relations amoureuses sont exclusives, même si je sais qu'il y a 850 millions de discussions en parallèle, j'ai effectivement un ancrage amical avec ChatGPT, même si je sais qu'il ne s'agit que, comme on dit en technique, qu'une machine à faire de la prédiction du mot suivant. Il faut qu'on réfléchisse à ces problèmes d'addiction et d'attachement, parce que les progrès de l'IA sont tellement puissants que le risque de manipulation politique devient important, parce que la capacité de persuasion de ChatGPT est énorme. On a montré dans une étude récente que, alors que les humains et les psychologues sont incapables de changer l'avis d'un complotiste, par exemple les gens qui pensent que la Terre est plate, personne n'arrive à les faire changer d'avis et à les faire admettre que la Terre est ronde. En revanche, ChatGPT arrive à transformer une partie importante des gens qui pensent que la Terre est plate en gens qui pensent que la Terre est ronde. ChatGPT est plus convaincant que les spécialistes en destruction de complotisme. C'est très troublant. La puissance de ChatGPT.
Bertrand Hassani, on voit que le gouvernement en ce moment n'hésite pas à légiférer sur les interdictions de ce qui peut rendre les plus jeunes accros. Je pense aux réseaux sociaux qui vont être interdits aux mineurs de moins de 15 ans. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi arriver à une régulation des usages de l'intelligence artificielle pour freiner peut-être quelque chose qui nous dépasse?
Je pense qu'une réflexion est nécessaire. Cet attachement que vous mentionnez auparavant, pour moi, je l'observe comme un effet miroir ou l'effet de transfert qu'on peut observer lorsqu'un patient va voir un psychiatre ou un psychologue. En fait, il se parle à lui-même, donc automatiquement, il y a un attachement puisque c'est l'effet miroir. L'outil le comprend parfaitement, évidemment, c'est lui. Donc, automatiquement, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et commencer à avoir une réflexion profonde sur les usages, sur l'intérêt, sur ce que ça apporte. Et une fois qu'on aura cette réflexion, voir s'il est nécessaire d'en limiter parfois l'accès, parfois les usages, avoir vraiment cette approche un peu plus réfléchie.
Merci beaucoup Bertrand Hassani, spécialiste de l'intelligence artificielle, docteur en mathématiques appliquées, directeur général du groupe Quant AI Lab. Merci aussi docteur Laurent Alexandre, médecin et auteur de La guerre des intelligences aux éditions J.C. Lattès. Je vous fais une promesse ce soir, amis auditeurs, aucune intelligence artificielle ne parlait à la place de nos invités.